Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure, en direct sur Radio Grenouille, à 13h30. C'est irrégulier.
Et en direct.
Chouette.
Mais c'est toujours à la même heure.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, amatrices et amateurs d'ondes amphibiennes. Aujourd'hui, les pérégrinations de la Grenouille nous ont emmenés hors de la friche de la Belle de Mai, jusque dans le quartier de Benzins, à la bibliothèque de l'Alcazar. Ce mardi avait lieu la dernière conférence du cycle Opéra Mundi, en partenariat avec la ville de Marseille et du Fonds Régional d'Art Contemporain. C'est dans le cadre de ce cycle, sur les nouvelles problématiques liées à la crise climatique, que nous avons pu entendre les croissements terriblement angoissants, mais combien réels, de notre invité. Bonjour François Gemène.
Bonjour.
Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté de continuer à diffuser vos connaissances, et peut-être vais-je commencer par vous présenter à nos auditeurs. François Gemène est spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement, directeur du programme de recherche interdisciplinaire politique de la Terre à l'épreuve de l'Anthropocène à Sciences Po. Chercheur à l'Université de Liège et à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, vous enseignez également les politiques d'environnement et les migrations internationales à Sciences Po Paris et Grenoble, ainsi qu'à l'Université Libre de Bruxelles.
Oui, c'est compliqué, hein, on n'a plus de carrière universitaire linéaire comme avant aujourd'hui.
Vous êtes par ailleurs directeur du champ développement durable aux presses de Sciences Po et président d'Écosphère, un think tank européen consacré aux droits de l'homme et à l'environnement, auteur et co-auteur de nombreux livres, articles et rapports de recherche, maître de conférences et intervenant, comme pour le cycle Opéra Mundi, sur les nouvelles problématiques climatiques dont vous venez de sortir. Que traduit cette hyperactivité, François Gemène?
C'est une bonne question. Je pense que ça traduit d'abord le fait que les carrières universitaires ne sont plus linéaires comme on les avait dans le passé, où on entrait dans une université et où on restait dans cette université jusqu'à la fin de sa carrière, et qu'aujourd'hui on est de plus en plus sollicité à la fois par différentes universités, et aussi je dirais que ça traduit le fait que les enjeux sur lesquels je travaille sont des enjeux profondément interdisciplinaires, et que donc ça nécessite de travailler avec des gens qui sont parfois très différents et situés dans des universités très très différentes.
Est-ce lié aussi au fait que vous ressentez une urgence climatique ?
Certainement, certainement. Et je pense que voilà, une partie de cette hyperactivité en quelque sorte vient aussi d'un devoir que j'éprouve en tant que chercheur. Et c'est certain que quand on travaille sur ces matières, il y a une sorte d'obligation impérieuse et morale à essayer de les communiquer, à essayer de les faire exister. Donc c'est aussi ça relève aussi beaucoup de la manière dont je conçois la place du chercheur dans la cité et la place des chercheurs dans les débats publics. Je ne voudrais pas du tout être une sorte de chercheur dans une tour d'ivoire indépendant ou indifférent au débat public, et je pense que le rôle du chercheur est au contraire d'intervenir dans ces débats.
Ce qui manque d'ailleurs parfois à certains chercheurs, on manque de vulgarisateurs du savoir.
Il y a un problème autour de la vulgarisation du savoir, et il y a aussi un... Ce n'est pas un problème de pédanterie ou de snobisme, il y a parfois un problème d'incompréhension, je pense, entre ce que les chercheurs peuvent apporter à la société et ce que la société attend des chercheurs. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier que nos recherches sont quand même financées très largement avec de l'argent public, et que donc la société a le droit de savoir ce qui est fait avec cet argent public, et que les gens ont le droit de savoir aussi comment est utilisé l'argent de leurs impôts. Et donc j'essaye aussi de transmettre ce retour-là, qui est un retour auquel, me semble-t-il, les gens ont droit.
On entend parler tous les jours d'une urgence climatique qui est largement médiatisée. La communauté scientifique est partagée sur le sujet. Il existe même des climato-sceptiques. Quel est votre avis sur cette question des climato-sceptiques ?
Il y a plusieurs niveaux de climato-scepticisme. Ce sont des gens qui causent énormément de tort au débat public et qui cherchent avant tout à instiller le doute. Et le doute est un profond ressort de l'inaction. Beaucoup de gens vont se dire, finalement, pourquoi est-ce qu'on va agir si on n'est pas sûr ? Et on va se dire, on va attendre d'être sûr avant d'agir. Mais soyons clairs, il n'y a aucun autre domaine de l'action publique où on attend d'être sûr à 100% avant d'agir. Quand vous mettez en place des mesures de résorption du chômage ou de relance de l'activité économique, vous n'êtes pas sûr.
Tout à fait.
À 100%, mais vous avez quand même le devoir de le faire. Lorsque vous mettez en place des mesures de santé publique, vous n'êtes pas sûr à 100%. Sur aucun sujet, vous n'avez de certitude à 100%, mais vous avez néanmoins un devoir d'action et un devoir de précaution qui vous impose d'agir. Et je suis frappé de, comment dire, de... Parfois, la clémence qu'on a vis-à-vis des climato-sceptiques, où on a cette idée, finalement, c'est le droit au débat, le droit d'exprimer des opinions divergentes, le droit d'en discuter, nous sommes en République, démocratie ouverte, etc. Imagine-t-on qu'un médecin vienne dire sur un plateau de télévision ou sur une antenne de radio que, finalement, il est parfaitement acceptable d'avoir des relations sexuelles avec des partenaires multiples non protégés parce qu'on n'est pas sûr à 100% d'attraper le VIH ou une autre maladie sexuellement transmissible. Ça serait un scandale si un médecin venait dire ça sur les antennes, venait dire, finalement, tant qu'on n'est pas sûr à 100%, pas la peine de faire campagne pour l'emploi de contraceptifs ou du préservatif. Pourtant, sur l'enjeu du changement climatique, qui est quand même un enjeu de société fondamentale et un risque énorme et considérable que courent nos sociétés, ce discours climato-sceptique est tout à fait accepté comme faisant partie de la diversité des opinions. Et je pense qu'il faut que ceux qui donnent une tribune à ce type de discours se rendent compte du comportement absolument criminel qu'ils adoptent et des ravages que produit ce type de discours aujourd'hui pour les populations les plus vulnérables de la planète.
De toutes les manières, vous, François Jemaine, que l'argumentaire théorique des climato-sceptiques soit avéré ou non, vous travaillez sur des faits concrets, puisque votre sujet de prédilection est l'étude des phénomènes migratoires et surtout des flux migratoires liés aux facteurs environnementaux. Alors d'abord, peut-être pouvons-nous faire un bref état des lieux de la crise migratoire en août 2015, au micro de Nicolas Martin sur France Culture. Vous affirmiez l'infériorité du phénomène migratoire actuel par rapport à celui de 1992. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, le flux migratoire auquel est confrontée l'Europe depuis, disons, l'été 2015, a dépassé celui de 1990. Et donc on peut dire que, dans son histoire récente, jamais l'Europe n'a été confrontée à un flux migratoire de cette importance. Et qu'il faut remonter plus loin pour trouver des flux migratoires comparables. Je pense en premier lieu aux révolutionnaires de la guerre d'Espagne à la fin des années 30. Environ 800 000 d'entre eux avaient été accueillis en France, par exemple, qui à l'époque était bien moins peuplée qu'elle ne l'est aujourd'hui et était dans une situation économique qui n'était pas rose non plus à la fin des années 30. Donc ce n'est pas totalement inédit dans l'histoire de l'Europe, c'est inédit dans l'histoire récente, disons.
Si on doit procéder à un élargissement mondial de l'appréhension de ce flux migratoire, certaines données disent par exemple qu'une personne sur sept dans le monde est considérée comme migrant. N'est-ce pas exagéré ?
Non, je pense que c'est en réalité sous-estimé. Le problème, c'est que derrière cette question des migrations, en réalité, on va trouver une variété de situations beaucoup plus diverses que celles que l'on s'imagine souvent. Et quand on discute de migration en France ou en Europe, on voit une image précise, c'est-à-dire une image de désespérés qui viennent des pays du Sud, qui tentent d'arriver en Europe, qui arrivent dans des conditions très très difficiles, sur des bateaux, qui logent dans des conditions précaires, qui vont peut-être se retrouver à Calais, alors qu'en réalité, la réalité des dynamiques migratoires dans le monde est infiniment plus diversifiée. Les trois quarts des migrations dans le monde, ce sont des migrations internes, c'est-à-dire des gens qui migrent à l'intérieur des frontières de leur propre pays. Les migrations internationales représentent un quart seulement des migrations. Et dans ces migrations internationales, l'essentiel, 35%, ce sont des flux migratoires sud-sud, donc d'un pays en développement vers un autre pays en développement. Et ce que nous voyons, nous, par notre propre lorgnette, comme les migrations internationales, c'est-à-dire les migrations sud-nord, ne représentent que 30% de flux migratoires internationaux, qui eux-mêmes ne représentent qu'un quart des migrations dans le monde. Et donc on voit, en fait, le problème de migration, c'est qu'on les voit toujours par rapport à nous-mêmes, et que notre regard sur les migrations est profondément autocentré, y compris dans les termes que nous utilisons. Un étranger qui vient en France sera un immigré, un Français qui va à l'étranger sera un expatrié. Il est toujours rapporté à nous-mêmes, et on ne parvient pas à avoir ce regard à la fois globalisé et historique sur les migrations.
Le phénomène migratoire est donc important, mais loin d'être nouveau. Ce qui est novateur, en tout cas, c'est l'étude de la composante environnementale dans le comportement migratoire. Quel est l'impact du facteur environnemental dans la décision migratoire, François Genel ?
Il a toujours été très important. En réalité, les gens dans le monde se sont toujours déplacés à cause ou grâce à des facteurs liés à leur environnement. L'Europe, à l'époque préhistorique, a été colonisée avant tout parce que c'était une terre de ressources naturelles abondantes avec un climat tempéré. Et donc, ce sont des conditions environnementales qui ont expliqué le peuplement de l'Europe. S'il y a autant de gens qui habitent sur les côtes et dans les deltas, s'il y a autant de gens qui habitent à Marseille, par exemple, c'est avant tout parce que les terres y étaient plus fertiles et parce que les communications y étaient plus faciles. Et donc, il y a toujours eu des facteurs environnementaux qui ont expliqué la répartition géographique, la distribution géographique de la population dans le monde. Aujourd'hui, ça prend évidemment un tour nouveau avec le changement climatique qui déplace des populations à la fois d'une manière différente, parce que la question de la responsabilité de ces déplacements se pose d'une manière différente, et puis surtout qui accentue de plus en plus le poids des facteurs environnementaux dans les facteurs de migration. Et aujourd'hui, on peut dire que l'environnement est devenu le facteur majeur de migration et de déplacement dans le monde. Voilà. Par exemple, si je prends simplement les déplacements internes, donc les gens qui migrent à l'intérieur de leur propre pays, ben chaque année, il y a environ deux fois plus de personnes qui sont déplacées par des catastrophes naturelles que par des guerres et par des violences. Et donc, bizarrement, alors que l'environnement a toujours été un facteur important de migration, je dirais que c'est un peu à la faveur du changement climatique qu'on redécouvre cette réalité. Et donc, depuis lors, effectivement, les études sur le sujet prospèrent et à juste titre, parce qu'il y a un énorme vide à combler.
Notamment le projet EACH4, dont vous avez fait partie, financé très largement par l'Union européenne.
Financé même quasiment intégralement par l'Union européenne. C'est un vieux projet qui a été lancé en 2007. C'était il y a à peine même moins de 10 ans, mais on était encore au tout début des recherches sur ce qu'on allait appeler les migrations environnementales, donc les migrations liées aux dégradations de l'environnement. Et le but d'EACH4, c'était d'être une sorte de projet exploratoire où on a mené 23 études de cas dans 23 pays pour essayer de définir quelles étaient les grandes caractéristiques de ceux et celles qui se déplaçaient à cause de dégradation de l'environnement. Et donc ça a permis véritablement de mettre le sujet à l'agenda de recherche et à l'agenda politique. Et c'est un projet très très important, même si quand on le regarde aujourd'hui, 10 ans plus tard, on le trouve très imparfait
et incomplet.
Dans sa méthodologie, très incomplet. On se dit, oh, on aurait dû faire ça, on aurait pu faire ceci. Mais il était très important parce que c'est le projet qui a mis le sujet sur la carte. Et vous avez raison de dire et de rappeler que c'est un projet qui était financé par l'Union européenne. Et on a souvent volonté tendance aujourd'hui à critiquer l'Union européenne, à la voir comme une suite de contraintes, d'embarras, de réglementations. Il ne faut jamais oublier, je crois, ce que l'Union européenne a fait pour la recherche et ce qu'elle a permis comme collaboration entre chercheurs. Et au début de l'interview, on parlait un peu du rôle du chercheur dans la société. À mon sens, une des plus grandes réussites de l'Union européenne, c'est aussi d'avoir réussi à construire cet espace européen de recherche qui a complètement transformé la manière dont nous menons nos recherches, qui a amené de nouveaux sujets à l'agenda. C'est une énorme réussite de l'Union européenne.
Tami, C'était un extrait de Water is Rising, une performance réalisée par les habitants artistes des îles Tuvalu et diffusée par la chaîne universitaire UCTV. Elle décrit la profonde connexion avec la nature de ces gens touchés par l'élévation du niveau des mers et obligés de migrer pour trouver d'autres terres pour vivre. Il s'agit d'un flux isolé, mais qu'en est-il à l'échelle mondiale ? La migration environnementale a-t-elle été chiffrée ? Quelle est-elle en comparaison du flux migratoire, toutes catégories confondues, François Gemène ?
Alors, c'est très très compliqué d'avoir des chiffres sur ce sujet, et la plupart des chiffres que vous allez pouvoir trouver, notamment sur Internet, sont généralement assez farfelus pour rester poli. Le problème des chiffres, en réalité, c'est que très souvent, les déplacements qui sont liés à l'environnement sont des déplacements qui vont s'effectuer sur de très courtes distances et qui donc vont échapper à tout comptage statistique et vont aussi souvent se mêler à d'autres facteurs de migration. Et souvent, c'est difficile d'isoler le facteur environnemental d'autres facteurs de migration. Parce que souvent, l'environnement, pour beaucoup de gens, c'est leur source de revenus. Et donc, environnement et économie se mêlent les uns les autres. L'environnement n'est pas quelque chose qui est détaché d'un contexte sociopolitique ou qui flotterait dans l'éther. C'est quelque chose qui est imbriqué dans un contexte sociopolitique. Et donc, c'est difficile d'isoler la variable environnementale d'autres variables. Cela étant, il y a quand même des chiffres qui existent et qu'il faut donner. Et donc, on estime, par exemple, que les catastrophes naturelles, les seuls chiffres robustes qu'on a, ce sont les chiffres des personnes déplacées chaque année par des catastrophes naturelles. Il y a à peu près 26 millions de personnes qui sont déplacées chaque année par des catastrophes naturelles. Pour donner un ordre de grandeur aux auditeurs et aux auditrices, c'est à peu près une personne par seconde où nous parlons. À ce chiffre, il faut ajouter tous ceux qui sont déplacés par des dégradations plus lentes de l'environnement, par la déforestation, par la désertification, par la hausse du niveau des mers. Et là, ce sont des déplacements qui sont très espacés dans le temps, souvent sur de courtes distances et qui donc ne sont pas du tout comptabilisés statistiquement. Et puis, il y a un autre grand point aveugle de la recherche, ou plutôt deux autres grands points aveugles. Le premier point aveugle, c'est qu'on a donné sur ce qu'on appelle les flux, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont déplacées chaque année. Mais on n'a pas de données sur le nombre de personnes qui restent déplacées. Or, toutes les données qu'on a sur d'autres types de migrations, les migrations économiques ou les réfugiés, c'est ce qu'on appelle, c'est un mot horrible, mais des données sur les stocks, c'est-à-dire sur le nombre de gens qui sont déjà arrivés et qui sont demeurés dans le pays où ils étaient. On n'a pas du tout ce type de données sur les migrations environnementales, on a juste des données année après année, mais on n'a aucune indication sur la durée de ces déplacements. Et puis l'autre point aveugle, c'est bien sûr le futur, où on ne sait pas du tout prévoir aujourd'hui combien de personnes seront déplacées dans le futur par les impacts du changement climatique ou par d'autres dégradations de l'environnement.
Dans votre ouvrage « Géopolitique du climat, négociation, stratégie, impact », réédité en 2015 par les éditions Armand Collin, vous précisez que le climat, donc, comme vous l'avez dit, déplace une personne chaque seconde. On ne peut donc plus nier cette réalité, mais quelle est-elle, cette réalité ? Pourquoi les migrants environnementaux partent-ils ? Quelles sont les conditions de leur périple et comment sont-ils accueillis ?
En réalité, derrière le terme « migration environnementale », on va mettre des situations très très différentes. Vous allez avoir des gens qui doivent fuir pour sauver leur vie parce qu'ils ont tout perdu dans un cyclone, par exemple. Et vous allez aussi déjà avoir des gens qui, lors de la saison des pluies, par exemple, plutôt que de perdre leur récolte, vont migrer en ville, prendre un boulot de taximène ou d'ouvrier de chantier, ce qui va apporter des revenus complémentaires à leur famille. Et donc, vous allez avoir des types de migration très, très différents qui vont être motivés par des raisons très différentes. Dans certains cas, ça sera des déplacements forcés, des évacuations brutales. Dans d'autres cas, ça sera des migrations qui seront plutôt ce qu'on appelle une stratégie d'adaptation. Et donc, les gens vont migrer pas du tout parce qu'ils ont échoué à s'adapter aux impacts du changement climatique, mais ils vont migrer précisément pour s'adapter. Ça va être une stratégie qu'ils vont déployer eux-mêmes. Et donc, le terme de migration environnementale est à la fois utile pour mettre la question à l'agenda, mais aussi trompeur parce qu'il camoufle des réalités migratoires très très différentes, des besoins très très différents et des réponses politiques qui devront aussi être très différentes.
Comment sont vécus les déplacements de ces personnes qu'on nomme peut-être trop hâtivement les migrants environnementaux ? Par quels moyens, légaux ou illégaux, se déplacent-ils ?
Souvent, je dirais qu'ils se déplacent en silence et sans rien dire à personne et sans compter sur l'assistance de quiconque. Et on a souvent des déplacements sur de très faibles distances parce que les gens souvent vont juste chercher à se mettre à l'abri mais ne vont pas forcément chercher à changer de pays et encore moins à s'éloigner trop de leur famille ou de leurs réseaux sociaux et économiques. Et ce qui veut dire que les gens vont souvent se déplacer d'une zone très exposée aux dégradations de l'environnement vers une autre zone également très exposée. Donc on va souvent avoir des déplacements en chaîne. Au Bangladesh, par exemple, vous avez des familles qui vont parfois migrer 6 à 7 fois sur une même année, qui vont migrer quasiment tous les 2 mois parce qu'ils vont être inondés, perdre leur récolte, etc. Et le problème, c'est qu'on n'a pas du tout de vision politique de ces déplacements et que donc, malheureusement, dans le pire des cas, ça va créer des crises humanitaires après des catastrophes naturelles. Et dans la plupart des cas, ça va être des déplacements tout à fait invisibles, espacés dans le temps et qui ne pourront pas compter sur aucune assistance, malheureusement. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y a un impératif aujourd'hui à avoir une sorte de vision proactive de ces migrations et de ces déplacements pour essayer de les accompagner au mieux.
Chacun migre dans des conditions différentes. En revanche, est-ce qu'on peut parler peut-être de catégories d'accueil ? Quels sont les pays qui accueillent ? Est-ce qu'il y a des aides ? Est-ce qu'il y a...
Il y a des pays qui en font plus que d'autres, oui. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont davantage pris conscience de la réalité de cette situation et qui ont commencé à développer toute une série de politiques pour essayer d'assister les migrants, pour essayer de davantage protéger leurs droits. Voilà, il y a des pays, par exemple, comme les Philippines, ont incorporé dans leur législation nationale toute une série de mesures pour protéger les droits de ceux qui étaient déplacés par les catastrophes naturelles. Des pays comme la Suède ou comme la Finlande accordent l'asile depuis le milieu des années 2000 aux personnes déplacées par des catastrophes naturelles, même si, en réalité, ça n'est pas souvent mis en œuvre dans les faits, c'est une possibilité qui existe. Je vois quand même, depuis maintenant quelques années, une prise de conscience politique de plus en plus grande de ces questions, à la fois par les gouvernements des pays concernés, mais aussi par les organisations internationales. Et par exemple, une initiative qui me semble assez porteuse, c'est l'initiative Nansen, qui a été lancée en 2012 par la Suisse et par la Norvège, et qui se sont dit, voilà, deux gouvernements qui se sont dit, il faut faire quelque chose pour mieux protéger les droits de ces déplacés, qui ont mené une série de consultations régionales et qui ont abouti en octobre dernier à l'adoption par 110 États d'un agenda de protection et donc d'un guide de mesures que chaque État devrait mettre en œuvre. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre et comment est-ce que ça va s'appliquer dans la réalité des faits. Mais il y a en tout cas là une sorte de vraie prise de conscience à tout le moins qui pour le moment ne se traduit pas encore véritablement en réponse politique concrète, mais il y a au moins une sensibilisation qui fait, je crois, que plus aucun gouvernement aujourd'hui n'ignore l'ampleur du phénomène, même si beaucoup le voient encore comme un phénomène futur, en ignorant que c'est déjà une réalité présente.
On sait, François Gemène, qu'il existe des agences policières de contrôle de la migration, comme l'agence européenne Frontex, mais on manque cruellement de statut pour les migrants victimes de perturbations environnementales.
C'est un des grands oublis, en quelque sorte, du droit international sur les réfugiés et les migrations. C'est un droit qui s'est construit au début des années 50, dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale, et qui globalement a considéré que les gens étaient déplacés soit pour des raisons politiques, auquel cas ils pouvaient prétendre à une protection internationale, soit qui se déplaçaient pour des raisons économiques, auquel cas ils étaient, leur sort était laissé au bon vouloir des États. Et tout le droit des migrations, toutes les politiques migratoires se sont organisées autour de cette dichotomie qui est, on le voit aujourd'hui, beaucoup trop simpliste. Et donc, de ce fait, ceux qu'on appelle les réfugiés climatiques ou les réfugiés environnementaux ne sont pas des réfugiés puisqu'ils ne peuvent prétendre aucun statut dans le droit international. Raison pour laquelle beaucoup se sont dit, une solution au problème ne serait-ce pas au fond de créer pour eux un statut dans le droit international. L'idée paraît tentante et alléchante, mais pose quand même un certain nombre de problèmes, à commencer par le fait que le climat politique ambiant n'est pas du tout favorable à un élargissement des droits, ni à la création de nouveaux droits pour les migrants et pour les réfugiés. Mais quand bien même cet obstacle serait surmonté, la difficulté c'est de demander est-ce qu'un tel statut serait finalement approprié pour ces déplacements. Ce sont essentiellement des déplacements à l'intérieur d'un même pays, et donc un statut de droit international serait inopérant pour la plupart des cas. Et aujourd'hui même, politiquement, beaucoup de pays du Sud voient cette question du statut comme une sorte de solution que voudrait leur imposer le Nord. Puisqu'au fond, s'il y avait un statut, où iraient les migrants et les réfugiés? Vraisemblablement dans le pays voisin du leur, c'est-à-dire un pays en développement. Et donc beaucoup craignent aussi que cette solution du statut ne soit une façon pour les pays du Nord de se débarrasser du problème en imposant une obligation supplémentaire aux pays du Sud. Et donc je pense que ça n'empêche pas de discuter de la question du statut, mais croire que la question du statut résoudrait le problème serait un leurre, je crois.
Donc effectivement, l'outil ne serait pas suffisant à lui-même, mais quand même permettrait une meilleure gestion de l'urgence, peut-être. Ce vide juridique traduit bien quand même une lourdeur du système du droit international qui peine à réagir face à une situation d'urgence. Où en est-on dans la création d'un dispositif garantissant un statut à ces apatrides temporaires?
Sincèrement, on n'en est pas très loin. Je dirais que l'agenda de protection de l'initiative Nansen que j'évoquais il y a quelques minutes est sans doute aujourd'hui l'avancée la plus significative et le plus loin que l'on puisse aller dans ce domaine. Aujourd'hui, on a un droit international qui est quand même battu en brèche sur tous les fronts. Si vous prenez la Convention de Genève, qui est un élément fondateur du droit international des réfugiés et du droit humanitaire en général, on a aujourd'hui un texte qui est violé chaque jour, y compris par les pays membres de l'Union européenne. Et donc on peut se demander finalement, de droit international, en pensant avoir résolu le problème, sans avoir convaincu les États de la nécessité d'agir. Et je ne veux pas voir les États ou les gouvernements comme des ennemis, mais il faut les convaincre avant tout de leur intérêt à agir et à prendre cette question à bras le corps, et créer une solution de droit international artificiel sera inutile si les États ne sont pas convaincus de la nécessité de la mettre en pratique.
François Gemène, depuis 2010, lors de la COP16 de Cancun, la migration a été reconnue comme un moyen d'adaptation pertinent face aux changements environnementaux. De plus, le projet MECLEP, dont vous êtes le coordinateur scientifique, travaille à la valorisation des flux migratoires. Si à l'habitude, on parle volontiers de problèmes migratoires, cette expérience vous a-t-elle donné les clés d'une lecture nouvelle du phénomène migratoire? Est-ce que cette expérience vous a permis de réfléchir à des clés de valorisation?
C'est une bonne question, parce qu'en réalité, la recherche sur les migrations environnementales, jusqu'ici, c'est essentiellement concentré sur les causes de ces migrations. On se demandait pourquoi est-ce que les gens partaient, quel type de dégradation de l'environnement faisait partir les gens. Et on ne s'était pas encore trop penché sur les conséquences, sur les impacts de ces migrations. Et ce que le projet MECLEP essaie de faire, c'est d'analyser, au fond, comment ces migrations vont transformer les sociétés de destination, là où arrivent les migrants, mais aussi les sociétés d'origine, là d'où ils partent. En d'autres termes, est-ce que la migration représente un plus ou un moins pour les communautés d'origine ou de destination, et comment faire en sorte que la migration soit un plus, à la fois, bien sûr, pour les migrants eux-mêmes en premier lieu, mais aussi pour leur communauté de destination et leur communauté d'origine. Et on va voir que selon la manière dont la migration est organisée, dans certains cas, elle va parfois soulager la communauté d'origine, mais parfois elle va affaiblir la communauté d'origine, parce que ça serait une perte de talent, une perte de force vive. Pareil dans la communauté de destination. Parfois, ça sera un apport de talent et parfois, ça sera une pression supplémentaire sur les ressources naturelles. Et je dirais que ce projet nous amène vraiment à nous interroger sur l'importance de réfléchir à la manière dont on va organiser ces flux migratoires. Et trop souvent, aujourd'hui, on est encore dans une optique où on va essayer de résister aux migrations comme si elles constituaient une forme d'anomalie, alors que je pense que le mieux que nous puissions faire, c'est d'essayer de voir comment nous pouvons rationnellement essayer d'en maximiser les bénéfices pour les migrants eux-mêmes, mais aussi pour leur société d'origine et de destination, qui sont parfois un peu oubliées dans ce débat.
Alors comment ? C'est une bonne question. On le sait, le phénomène migratoire en France est un sujet sensible. Quand une étude IFOP mesure à 59% le nombre de Français qui restent opposés à l'accueil de migrants, comment valoriser l'image de l'immigration en France, François Gemène ?
Je pense que cette question de la valorisation de l'image de l'immigration nous interroge sur nous-mêmes et sur notre rapport aux autres. Et je reste frappé de voir combien nous continuons à porter un jugement normatif sur l'immigration, un jugement normatif qui nous conduit à réduire l'étranger à sa condition d'étranger. Pour le meilleur et pour le pire, on va souligner que tel ou tel talent est fils d'un immigré ou lui-même un réfugié, comme si c'était sa condition d'étranger qui lui apportait son talent ou son génie. De la même manière, lorsqu'un fait divers va impliquer des étrangers, on va souligner que c'est le fait d'étrangers et que ça ne se serait pas produit si ça avait été des nationaux, alors qu'un criminel reste un criminel, qu'il soit étranger ou national. Mais je dirais que notre jugement normatif sur l'immigration enferme les étrangers dans leurs conditions d'étrangers. Et il me semble que le défi aujourd'hui quant à la valorisation des migrations, ça va être de permettre que chacun dans la société puisse se saisir des bénéfices de la mondialisation. Et ce que je crains, c'est d'avoir une sorte de société fracturée et où il y aurait une certaine forme d'élite mondialisée, appelons-la comme ça, qui pourrait se saisir des bénéfices de la mondialisation, qui aurait une carrière internationale, qui épouserait quelqu'un dans notre pays, dont les enfants seraient binationaux ou trinationaux, et d'une autre partie de la population qui ne pourrait pas saisir les bénéfices de cette mondialisation, qui verrait cette mondialisation et donc l'immigration qui y est liée aussi comme une menace et qui s'accrocherait, s'agripperait à la frontière comme un dernier rempart de protection face à ce qui est perçu comme une menace. Et quelque part, l'enjeu, c'est de permettre aujourd'hui à l'ensemble de la société de se saisir des bénéfices de la mondialisation. Et je pense que c'est le meilleur moyen de valoriser l'immigration, c'est de montrer que chacun peut aussi être expatrié.
Peut-être pour finir, un élargissement de champ. Peut-on incriminer d'une certaine manière les politiques qui ont une démarche de communication électoraliste et qui se saisissent du sujet de la migration d'une manière qui ne correspond peut-être pas à la réalité, mais plus pour aller vers leurs objectifs?
Il y a effectivement une instrumentalisation très forte de la question de l'immigration, y compris parce que c'est un déterminant important du vote, comme le montrent les enquêtes électorales. Et il y a de la part des politiques souvent soit une méconnaissance des réalités de l'immigration, mais aussi parfois une méconnaissance instrumentalisée qui les arrange bien. Je dirais qu'il y a souvent une certaine forme de manque de courage et de démission par rapport à cela, face à un débat qui est largement confisqué par à la fois une peur fantasmée de l'opinion publique et qui est aussi largement kidnappé par le Front National et par les forces d'extrême droite. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a eu une démission de la classe politique dans son ensemble, gauche et droite, sur ces questions, qui a abandonner l'idée de pouvoir proposer un projet politique nourri de valeurs et de principes sur l'immigration et qui en est réduit à une sorte de gestion managériale de la question qui est forcément toujours considérée comme un problème à résoudre. Et dès l'instant où on a admis l'idée, dès le milieu des années 80, que le Front National posait les bonnes questions mais apportait les mauvaises réponses, on a confié les clés du débat et les clés de l'agenda au Front National. Et aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui pose les questions et chacun, dans les forces démocratiques, se contente de répondre dans une posture qui est sans cesse défensive. Je pense que c'est la victoire ultime de l'extrême droite qui n'est même pas passée par les urnes. Et le problème aujourd'hui, c'est que le seul parti politique qui propose un projet cohérent sur l'immigration, c'est le Front National. Et qu'il y a urgence aux autres partis politiques à remonter à l'offensive et à proposer à leur tour un projet, un contre-projet sur l'immigration qui ne soit pas juste une réponse et une défense par rapport aux thèses défendues par le Front National.
Merci, merci François Jemaine d'être resté si longtemps. Et pour clôturer ce 13-30, une performance à mi-chemin entre statistiques et musique, c'est celle de Brian Flew, aka Data Driven DJ, qui a choisi comme partition les données de 40 ans de migration. Distance from Home sur Radio Grenouille.
Un
rendez-vous irrégulier.
Quand ?
Toujours la même heure.
88.8.
Je réécoute encore et encore.
Chouette ?
Chouette ! Le 13-30.
Et en podcast sur radiogrenouille.com.